débat africain, Madeleine Mukama-Bano.
Suite de notre débat consacré à la politique africaine des États-Unis, nous sommes toujours en compagnie de Doudou Diène, vice-président de l'Institut international de politique des civilisations, un institut créé par Edgar Morin, Albert Bourgie, professeur des universités, il enseigne les relations internationales à l'Université de Reims, Christopher Faumouneux, directeur régional Afrique à l'Institut national démocratique, c'est une organisation non gouvernementale basée à Washington, et Yves Kouya-Maizo, économiste, directeur du think tank Afrologie. C'est Yves Kouya-Maizo qui évoquait tout à l'heure ce retour, si retour il y a des États-Unis sur le continent, qui seraient motivés par des problèmes d'influence que rencontreraient les États-Unis aujourd'hui. Doudou Diène, est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Est-ce que vous avez l'impression qu'en Afrique, avec l'Union européenne qui est très présente, avec l'offensive chinoise, les États-Unis veulent se centré aussi sur le continent.
Je crois aussi, mais je crois qu'à ce stade, il faut que nous nuancions notre réflexion parce que elle inscrit dans la longue durée. Et ne pas oublier quand même
qu'Obama
vient d'arriver, ça ne fait qu'un an. Mais je pense qu'il est rappelé également que Obama n'est pas seul. Il y a une complexité dans la structure du pouvoir américain qui fait qu'un équilibre de force et d'influence extrêmement complexe entre le président, son parti, le parti républicain, le congrès et les différents lobbies. La question du Moyen-Orient le montre très bien. Malgré ses idées avancées sur le plan théorique de Obama, on voit comment sa vision du Moyen-Orient est en train d'être freinée de manière extrêmement forte. Alors pour l'Afrique, il y a quand même deux questions fortes qui, à mon avis, alourdissent la politique américaine, le renouvellement ou une nouvelle vision de la politique américaine à l'égard de l'Afrique. Deux questions qui ont leur propre lobby et leurs représentants à Washington. L'une, c'est la question stratégique de ce que les Américains considèrent comme la priorité au combat contre ce qu'ils appellent l'islamisme ou ce qu'ils appellent, entre guillemets, le terrorisme islamique. Et ce qui fait que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et toute la
bande sahélienne, entre autres,
et qui va jusqu'à l'Afrique orientale et autour du Sahara, est en train d'être structuré autour de la nécessité de ce que les Américains veulent faire pour contrer l'avancée de groupes islamistes, etc. Et ça, c'est une donnée extrêmement forte. Mais l'autre problème lourd qui influence la politique américaine, au-delà des visions personnelles ou de la sensibilité d'Obama, c'est le fait que l'Afrique est devenue un nouveau carrefour de la drogue latino-américaine, notamment colombienne, qui passe maintenant par l'Afrique, qui est devenue une voie privilégiée. Et ce qui fait que les États-Unis sont en train d'élaborer aussi des politiques qui toujours relèvent de la manière de structurer les forces politiques de la région du continent africain, notamment de l'Afrique de l'Ouest, les forces sécuritaires, les partis politiques, etc., pour contrer cette nouvelle influence et qui est en train littéralement de pervertir et représente un danger très grave tant sur le plan de la corruption que sur le plan de l'utilisation de la violence. Je veux parler de la pénétration très forte de la drogue et des circuits de la drogue. Et donc, sur cette base-là, ces deux questions lourdes.
Doudou Diène, est-ce que ça veut dire que face à ces questions stratégiques contre le terrorisme, contre les trafiquants de drogue, des États-Unis, l'administration Obama joue, influence la situation politique dans les pays africains?
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'Obama est actuellement dans le court terme. Il fait face à beaucoup d'enjeux, dont ces deux-là qui sont très importants. Il n'a pas encore ébauché, élaboré et articulé une vision de plus long terme. Et ce sont ces deux problèmes-là qui certainement font le quotidien des débats internes au sein de l'administration américaine et qui influencent la politique d'Obama à l'égard du continent africain.
Oui, Yves Kouya-Maizo.
Écoutez, je partage ce qu'il dit, mais je pense quand même que la vision de long terme d'Obama existe. Il y a deux axes quand même. Je suis entièrement d'accord qu'il est dans une structure difficile avec le Congrès, avec les démocrates, etc. Et il y a toute une approche diplomatique qu'il appelle d'ailleurs « smart diplomacy », qui est cette diplomatie dite intelligente. Mais à côté de celle-ci, il y en a une autre qui est celle du « soft power diplomacy ». Cette diplomatie soi-disant, écoutez, je vous montre à côté de moi la bombe atomique et la force des États-Unis et mes muscles, et puis vous essayez de faire attention à ce que vous me dites. C'est ça que je rappelais quand je disais que quand l'Union africaine arrive à 53 sans avoir donné justement pouvoir bien précis à la commission de l'Union africaine, elle peut avoir des problèmes. Alors ça donne quoi concrètement si on prend les sujets qui ont été mentionnés? Dans l'islamisme terrorisme, c'est du unilatéralisme, c'est-à-dire que c'est des positions tracées d'Obama, qu'elles soient à court, moyen ou long terme. Dans le domaine de la drogue, il ne faut pas se faire des idées. Beaucoup de pays africains, même des États, voire même des dirigeants, fonctionnent sous cette base-là. C'est de l'argent qui échappe justement à l'information du FMI, la Banque mondiale et autres, et qui permettent beaucoup de choses sur le terrain qui, certaines fois, reviennent même pour financer des campagnes électorales en Occident. Donc, il ne faut pas se tromper dessus. Donc, le fond du problème pour moi, c'est qu'Obama a quand même un problème. Il ne vient pas renforcer les contre-pouvoirs en Afrique de manière générale et peut-être une certaine démocratie des partis d'opposition qui permettent...
Justement, Yvekoua Maïzo, est-ce que ces intérêts stratégiques, que ce soit le terrorisme, que ce soit la question de la drogue, peuvent cohabiter avec le renforcement de la démocratie, le renforcement de la société civile? Parce qu'on a l'impression quand même qu'ils ne sont plus tellement regardants les États-Unis. C'est ce qui se passe au niveau de la gouvernance.
Vous avez raison, c'est devenu antinomique, justement. Je ne veux pas citer des pays ici, mais quand vous avez des États-Unis, à partir du moment où un État donne son accord sur la plupart des décisions de l'ONU, et qu'à ce moment-là, l'État, s'il fait de la démocrature ou autre chose, on ne dit plus rien, ça pose problème. Surtout quand cet État peut aussi gérer de la drogue et plus loin financer indirectement un certain nombre de bandes qui sont des accords au Mali ou ailleurs avec cet islamiste dont on parlait tout à l'heure. Il y a un deuxième problème sur la Goa, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, je suis quand même économiste, oui. C'est qu'il n'y a rien de concret fait sur les capacités productives. On ne peut pas continuer à faire de l'agro-business et à vendre nos cafés cacao non transformés. Et là-dessus encore, j'attends d'entendre qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Alors c'est vrai qu'il y a une approche vers le côté agro, comme on a dit tout à l'heure au départ, qu'on va réduire tout peut-être les subventions vers l'agriculture américaine, mais en réalité c'est un transfert qui va vers les agriculteurs américains qui vont s'orienter vers ce green business dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'ils vont financer tout ce qui est écologique chez eux d'abord, éventuellement envoyer en mission comme les Peace Corps des gens qui vont nous aider un peu en agriculture, mais là Obama est déjà parti perdant parce que les Chinois sont déjà sur place et en train de modifier leur position pour ne plus simplement prendre mais former un certain nombre de gens, le cas du Sénégal ou d'autres qui sont très concrets.
Oui, Albert Bourget, est-ce que cette compétition avec les Chinois, les Européens, elle existe ou est-ce que l'Amérique regarde ailleurs?
Non, je ne crois pas que l'Amérique regarde ailleurs. Elle ne peut pas regarder ailleurs. Elle ne peut pas être indifférente aux influences chinoises, européennes, ou, comment dirais-je encore, au marché qui bien sûr se développe ou prospère sur le continent africain. Il y a aussi, n'oublions pas aussi, il y a des partenaires africains qui ont leur propre politique, leur propre logique. Hein. Donc les États-Unis, certes, ne sont pas indifférents, mais dans le même temps, doivent également prendre en compte cette volonté des États africains de diversifier leurs partenariats. Mais moi, je voudrais juste revenir sur un point qu'a soulevé Doudou, qui me paraît être important, c'est justement la dimension sécuritaire de la politique africaine d'Obama et des États-Unis. C'est vrai que cette dimension sécuritaire a d'une certaine manière occulté d'autres préoccupations, notamment politiques, démocratiques, on l'a vu. C'est-à-dire qu'on a passé, non pas sous silence, mais par pertes et profits, des coups d'État sous le couvert, justement, que les nouveaux dirigeants issus de ces pronunciamentos seraient plus à même de lutter contre le terrorisme et que peut-être, dans le même temps aussi, on fait passer au second plan, je le disais tout à l'heure, où on oublie un petit peu à la fois la démocratie en tant que telle, l'expression démocratique, et notamment la vie politique, et notamment à travers les partis politiques eux-mêmes, africains. Et ça, c'est me semble-t-il, quelque chose qui est nouveau.
Est-ce que c'était pas le cas vers les dernières années de Bush? C'était oui, ça aussi.
Peut-être les dernières
sécurité
années de Bush,
d'abord, démocratie
peut-être
après.
Peut-être les dernières années de Bush, peut-être même, je ne dirais pas les 8 ans de Bush, il y a eu un activisme américain du temps de Bush, je crois surtout les 4 premières années, mais à l'époque de Clinton, où ça a bougé dans ce domaine, dans cette direction. Je prends un seul exemple, c'est que les programmes des grandes ONG américaines était extrêmement développé, le NDI entre autres, y compris d'ailleurs l'Institut républicain, développait des coopérations, ces ONG étaient présentes un petit peu partout, œuvraient ou faisaient participer les partis politiques. C'est moins vrai, c'est moins vrai, et depuis 2 ans, on n'entend plus parler justement de cette part extrêmement intéressante, notamment de l'activité des États-Unis en Afrique et à savoir cette synergie qu'il pouvait y avoir dans le domaine notamment des libertés, dans le domaine de la revendication démocratique, etc. Il n'y a plus tout cela. Tout cela, on a l'impression que tout cela, bien sûr, suit sans doute, mais suit d'abord et avant tout tout ce qui concerne aujourd'hui la sécurité, comme ça a été dit, la lutte contre l'islamisme, bien sûr la bande sahélienne, etc. Oui. c'est la lutte contre la drogue. Bien évidemment qu'il faut le faire. Bien évidemment que c'est prioritaire, sans aucun doute. Mais cette priorité ne doit pas pour autant faire passer au second plan d'autres aspects, précisément, qui faisaient jusque-là, me semble-t-il, qui commençaient à faire, en tout cas, la spécificité de la politique américaine. Cette politique américaine manque de visibilité, manifestement, depuis 2 ans, depuis en tout cas 1 an et demi.
Oui, Christophe Ofomunye.
Effectivement, beaucoup d'Africains attendent de voir de façon très concrète, de façon vraiment palpable, l'impact de l'administration Obama. Parce qu'effectivement, autour de lui, cela touche au point qui a été soulevé auparavant par Doudou, autour de Barack Obama, il s'est entouré de gens qui connaissent le continent africain, comme son vice-président Biden, le secrétaire d'État Hillary Clinton au niveau de l'exécutif, mais également même au Congrès, le président de la Commission des Affaires étrangères, le sénateur John Kerry, connaît bien l'Afrique. Donc, je me dis que...
Et même voilà, parmi ses conseillers, il y a des gens qui connaissent l'Afrique, mais on ne voit pas la traduction de cela.
Donc, je me dis que quelque part, vraiment, dans les 3 années qui restent pour ce premier mandat, il faudra que l'administration Obama se démarque de façon à ce que, effectivement, dans 5 ou 10 ans, les gens puissent identifier de façon très concrète l'impact qu'il a eu pendant sa présidence. Parce que je crois que les espoirs ont été soulevés, les attentes sont grandes et les gens attendent de voir du concret.
Mais finalement, pourquoi l'offrait-il ? Avant tout, c'est les intérêts des États-Unis. C'est aujourd'hui les intérêts des États-Unis. Ce sont les questions stratégiques, les questions de drogue, des matières premières. On a vu quand même l'intérêt des États-Unis, par exemple, pour la République démocratique du Congo.
Non,
pour
le reste... Il le fera, non pas parce que c'est un cadeau pour l'Afrique, mais il le fera justement parce qu'il y a des intérêts aussi convergents. Abbé a parlé tout à l'heure des pays africains qui ont aussi leur intérêt, qui voient dans leur intérêt de commercialiser leurs produits avec les Américains. Ça, il y a des intérêts convergents. Il faut voir, par exemple, dans le domaine de la politique énergétique, le fait que dans 10 ans, à peu près 25%, donc le quart des importations de produits pétroliers américains viendra du continent africain, viendra du golfe de la Guinée. Donc, les États-Unis ne pourra pas s'en passer de relations qui soient conviviales avec ce pays-là. Donc, quelque part, je me dis que ce n'est pas du bénévolat, c'est justement parce que l'Afrique compte, c'est un marché de plus de milliers d'habitants et un marché qui pourra aussi profiter aux entreprises américaines.
À condition qu'il cesse d'être sûrement des pourvoyeurs de matières premières doudouviennes.
Oui, parce que ce qui m'intéresse vraiment en profondeur, c'est en quoi la politique actuelle d'Obama est en nuance depuis 1 an qu'il est au pouvoir, influence les dynamiques en cours dans le continent africain, notamment la manière dont le continent africain, sur tous les grands enjeux internationaux et purement africains, le continent est en train de s'organiser pour se prendre en main, tant sur le plan du règlement des conflits internes que la formation de fonds sur les grands enjeux agricoles, économiques et commerciaux, etc. En quoi la politique américaine d'Obama renforce ou freine ou pervertit ces dynamiques en profondeur. Je donne simplement 2 exemples qui me paraissent négatifs et peut-être potentiellement dangereux. L'approche que nous avons convenue, la même lecture Albert et moi, et les autres aussi, de la politique sécuritaire à court terme, a un impact clair et immédiat. C'est-à-dire que le gouvernement américain actuellement, pour contrer ce qu'ils appellent la pénétration de l'islamisme dans la zone sahel ou saharienne, est en train de continuer une politique qui avait été commencée par Bush et qui tend littéralement à tourner les forces sécuritaires des pays africains, non pas vers les questions internes aux questions africaines, mais pour contrer un ennemi qui a été désigné. Et ça a un impact dans la manière dont on veut amener les sociétés africaines, par exemple, à faire une lecture de l'islam, à ne pas considérer l'islam comme une partie de la société, mais à avoir une sorte de regard suspicieux sur certains groupes islamiques. Et on sait que certains services américains observent et surveillent.
Non, Doudou Diène, ce sont vos déductions.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette politique sécuritaire a un impact qui peut être négatif à long terme sur les dynamiques internes africaines. Et je terminerai en disant que ce qui est peut-être important pour nous, c'est d'analyser la politique américaine non pas comme une politique qui va être centrale sur le continent africain, mais en quoi cette politique peut conforter ou freiner les dynamiques internes sur le continent africain.
Il veut quoi, Maïzo? Est-ce que la politique d'Obama aujourd'hui freine ou encourage les dynamiques en cours en Afrique, que ce soit en matière de démocratisation ou en matière de, tout simplement même de vision, de cohabitation entre sociétés?
Moi, je crois surtout qu'il cherche une nouvelle forme d'influence, et je l'ai dit depuis le début, que ce soit pour les dynamiques africaines ou autres. Le problème, c'est qu'il y a des poches qui sont laissées, ce qu'on appelle le vide juridique, à partir du moment où ils peuvent, entre guillemets, le sous-traiter à d'autres puissances européennes ou ailleurs, voire même les Chinois, notamment au Congo, ou carrément, quand ces espaces-là peuvent être gérés parce que ce n'est pas quelque chose qui les engage ou qui peut poser un problème. Alors, l'islamophobie en politique sécuritaire, elle existe parfaitement, mais quand même, il y a une évolution. Le G20, c'était l'Afrique du Sud uniquement avant. Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec l'Union africaine, le G20, peut-être que demain, ça va peut-être justement changer. Ce ne sera plus uniquement l'Afrique du Sud qui semble être le représentant pour l'ensemble, pour les États-Unis, pour toute l'Afrique, mais peut-être d'autres pays, on n'a pas encore choisi lesquels, et je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'il faut s'inscrire. Mais vous savez, Obama, c'est un intellectuel, donc tout est placé sur le moyen et long terme. Et donc on ne peut pas aujourd'hui, après un an, prendre une décision. On peut seulement constater que ça reste quand même relativement flou et que quelque part, il y a une bonne volonté de sa part qui est limitée par tout un environnement assez contraignant de sa propre administration et peut-être aussi des gens qui, de l'autre côté en Afrique, vous savez, ne sont pas toujours très d'accord et qui s'organisent. Le syndicat des chefs d'État existe quand même aussi.
Oui, notamment dans cette lutte contre le terrorisme, on a l'impression que c'est une aubaine quand même pour certains.
Absolument.
Oui, Albert Bourget.
Moi, je reste convaincu, si vous voulez, que ce danger islamiste, qui est quand même agité, certes fondé, parfois surestimé, est aujourd'hui en train de fausser les règles du jeu politique dans un certain nombre de pays. Et cela, bien évidemment, contrevient aux aspirations démocratiques. Donc il y a aujourd'hui des forces politiques en Afrique qui, d'une certaine manière, sont mises tout simplement sous les teignoirs, justement pour laisser place à une politique dite sécuritaire qui ouvre tout simplement la voie ou l'accès au pouvoir à précisément des forces de sécurité, aux armées, et c'est ainsi qu'on a pu, sans citer de nom, mais des pays à permettre donc l'accès au pouvoir des ou tout au moins la mise en place des régimes militaires.
En tout cas, on maintient.
Oui, maintient, ou on facilite la tâche, ou on organise en tout cas des processus qui permettent finalement d'asseoir le pouvoir des militaires sous les apparences, bien évidemment, du suffrage universel, sous les apparences, bien sûr, d'une légitimation par les urnes.
Oui, Doudou Diène, ce sera le mot de la fin.
Oui, je dirais que ce qui aussi m'inquiète beaucoup, c'est l'émergence dans l'élite américaine, et notamment africaine-américaine, d'une certaine partie d'un courant qui a été illustré par un éditorial dans le New York Times de Henry Louis Goethe, qui est le professeur nord-américain de Harvard, et qui appelait à l'urgence d'arrêter ce qu'il appelle le blame game sur l'esclavage. Et il faisait un appel pour que littéralement on revienne à ne plus considérer l'Europe, qui est l'initiateur historique de l'esclavage, comme l'ennemi principal ou la cause principale, et de remettre le curseur sur le rôle important, il le souligne de manière très excessive, des sociétés africaines dans l'esclavage. Et il conclut en appelant à Obama, en disant qu'Obama est le seul qui doit maintenant dire la vérité aux Africains pour leur dire, écoutez, l'esclavage est un mal, mais vous en êtes responsable. Donc je veux dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer derrière Obama, qui n'est peut-être pas sa vie personnelle, qui m'inquiète un peu dans la mesure où la vision qui était en filigrane du continent africain, comme continent marqué par la corruption, la non-démocratie et une fausse lecture de l'histoire, la question de l'esclavage, est en train de prendre forme et peut-être d'influencer la politique américaine. Et je conforte ce que j'ai dit tout à l'heure, rappelé par Albert, c'est que la priorité donnée au combat contre l'islamisme est de nature, par son approche uniquement sécuritaire, de déstabiliser les pays africains en faisant de ces sociétés de l'islam un ennemi, alors que l'islam est une composante très importante de ces sociétés. Donc l'approche sécuritaire à court terme est peut-être la donnée majeure, lourde, de la politique américaine encore
qui
maintenant.
Qui avait encore une fois commencé avec Bush, il ne faut pas l'oublier.
Mais il l'a conforté d'une certaine manière, il faut le dire. Malgré ses sensibilités sûrement personnelles, il faut lui donner le temps de pouvoir contrer les grands lobbies et les grandes lectures qui sont faites dans l'administration et dans l'establishment américain.
Merci, merci à tous les quatre. Merci à l'équipe du débat africain, Elodie Demanger et Laurence Colonne. Et merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain.